RFI, 8h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Et un nouveau journal avec vous, Sébastien Duhamel.
Et à la une ce matin, les voix qui s'élèvent en RDC pour dénoncer le projet de nouvelle constitution. Une coalition de personnalités appelle à la mobilisation nationale. Un jour de vote à Maurice, élection législative. Nous ferons un point sur les enjeux de ce scrutin. La campagne officiellement lancée pour l'ex-premier ministre kényan Raila Odinga. Il brigue la présidence de la Commission de l'Union africaine. L'élection, ce sera en février 2025. Mais hier, il présentait déjà son programme à Addis Abeba. On parlera également littérature dans ce journal avec le Salon du Livre d'Alger. Et c'est sa 27e édition cette année. Il fait la part belle notamment à la littérature subsaharienne. Mais d'abord, les boucliers qui se lèvent en RDC. L'idée de réviser la Constitution dérange manifestement. Raison pour laquelle des personnalités politiques, des défenseurs des droits de l'homme et des membres de la société civile font entendre leur voix. À l'image de Délie Sessanga, Jean-Claude Katende ou Fred Bauma, des noms bien connus des Congolais et qui s'unissent pour appeler à une mobilisation nationale. Elle parle d'une haute trahison envers la nation qui ouvrirait la voie à un troisième mandat du président Tshisekedi. À Kinshasa, on fait le point avec Patient Ligodi.
En engageant son régime sur la voie du changement de constitution, Félix Tshisekedi trahit la mémoire des non-martyrs, peut-on lire dans cet appel au sursaut national signé par 15 figures de l'opposition de la société civile, dont l'ancien candidat à la présidentielle, Délie Sessanga.
Que ce soit demain ou plus tard, si quelqu'un d'autre arrive avec le même projet, que ferons-nous ? Nous nous y opposerons sans hésitation. Plus jamais dans ce pays, quelqu'un ne viendra et n'essaiera de diriger au-delà de deux mandats comme président de la République. Nous, Congolais, disons non. Trop, c'est trop.
Du côté de la société civile, on retrouve le mouvement citoyen Lucha ou encore l'Azado. Son président Jean-Claude Katende appelle à une union forte de toutes les couches de la société pour défendre la Constitution.
Il faut que nous, vous et tous ceux qui ne sont pas dans cette salle, nous unissions nos forces. Ce n'est pas l'affaire des seuls hommes politiques ni des acteurs de la société civile, c'est l'affaire de tous les Congolais.
Premier rendez-vous, le 16 décembre, un meeting en hommage au référendum constitutionnel de 2005. Pour le moment, la Mouka de Martin Fayulu et les camps de Moïse Katumbi ne font pas partie des signataires, mais mènent leurs propres actions pour dénoncer le projet de révision ou des changements de constitution. Patient Ligodi, Kinshasa, RFI.
La RDC où se poursuivaient hier les états généraux de la justice, lancés mercredi par les autorités. Journée marquée par l'appel de l'inspecteur général des finances pour des réformes importantes. Il souhaite notamment que cesse l'immunité des membres du gouvernement. Il souhaite voir également la création d'un parquet national financier pour traiter les affaires de gros sous. Quelques chiffres pêle-mêle pour planter le décor à Maurice. Un peu plus d'un million d'électeurs appelés aux urnes, 62 députés à élire dans quelques 340 centres de vote répartis dans 21 circonscriptions. Voilà donc le cadre des élections législatives anticipées d'aujourd'hui. Quant à l'enjeu à Maurice, il s'agit d'un scrutin organisé après la dissolution du Parlement, décidé début octobre par le gouvernement de Pravin Jugnauth, qui est au pouvoir depuis 2017. Il souhaite obtenir la majorité avec sa coalition baptisée l'Alliance du Peuple, mais en face, à Amélie Tulé, se dresse une autre coalition, l'Alliance du Changement, emmenée quant à elle par l'ancien Premier ministre Navin Rangoulam.
Deux blocs emmenés par deux vétérans de la politique mauricienne ayant en commun d'être chacun fils d'anciens Premier ministres, et une autre coalition veut être la troisième force dans ce scrutin, l'Union Réforme. Un scrutin après une campagne électorale de 6 semaines troublée par l'affaire des écoutes téléphoniques, la diffusion d'enregistrements de personnalités politiques et médiatiques et notamment un extrait de conversation compromettante attribuée à un haut responsable de la police donnant des instructions pour maquiller un décès. Les autorités mauriciennes dénoncent des manipulations via l'intelligence artificielle, mais Human Rights Watch s'inquiète du choix du gouvernement de suspendre les réseaux sociaux durant moins de 48 heures. Et si leur usage a été rétabli depuis, l'ONG rappelle le besoin de garantir l'accès à l'information et appelle à une enquête approfondie sur ce que les enregistrements auraient pu révéler. Pour ces législatives, le Premier ministre sortant espérait capitaliser sur l'accord passé début octobre avec le Royaume-Uni pour la reconnaissance de de la souveraineté mauricienne sur l'archipel des Chagos. Mais durant la campagne, les électeurs se sont montrés plutôt préoccupés par l'insécurité, la lutte contre le trafic de drogue et leur pouvoir d'achat.
Les explications d'Amélie Tulé. C'était sans conteste l'actualité internationale de cette semaine. L'élection, le retour annoncé de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Événement observé à travers le monde et d'autant plus pour ceux qui sont engagés dans une guerre, car le milliardaire américain n'a eu de cesse lors de sa campagne de se présenter comme celui qui avait la capacité d'arrêter les conflits. Alors, au Soudan, pays engagé dans une guerre civile depuis plus d'un an et demi, le message n'est évidemment pas tombé dans l'oreille d'un sourd, à l'heure où Houda Ibrahim, où le gouvernement soudanais multiplie les appels du pied.
Khartoum mène depuis plusieurs jours une offensive diplomatique dans plusieurs capitales à travers ses représentations à l'étranger. À Paris, à Rabat, à Alger ou à Djibouti, à titre d'exemple, les ambassadeurs soudanais convient les journalistes à des conférences où ils exhortent vivement la communauté internationale à faire pression sur les pays de la région qui arment les paramilitaires de forces de soutien rapide ou qui leur facilitent l'acheminement d'armes et de mercenaires. L'ambassadeur soudanais à Tunis a appelé lui à mettre les FSR sur la liste des organisations terroristes. Parallèlement, le ministre des Affaires étrangères, fraîchement nommé Ali Youssef Sharif, qui a effectué son premier déplacement à l'étranger au Caire, a appelé mercredi les États-Unis à renforcer ses liens avec l'État soudanais. Le gouvernement soudanais espère que la nouvelle administration américaine sous le président Trump s'implique davantage dans la crise soudanaise aux côtés de l'armée régulière. Selon un ancien haut responsable américain, Washington pourrait charger des pays de la région comme l'Égypte, l'Éthiopie ou l'Arabie Saoudite de relancer le pourparlers de paix entre les deux belligérants.
Houda Ibrahim, un appel lancé au Tchad à l'occasion de la publication du livre Yaya Dilo, le sacrifice d'un héros incompris. Un livre signé Abakar Ousmane Idriss sur la mort du président du Parti Socialiste Sans Frontières, assassiné selon l'auteur le 28 février dernier lors de l'assaut du siège de sa formation politique à N'Djamena. L'auteur qui n'est autre qu'un proche conseiller de feu Yaya Dilo, aujourd'hui en exil. Il appelle à la libération de 24 personnes qui étaient présentes sur les lieux ce jour-là et qui sont actuellement enfermées au bagne de Korotoro. Abakar Ousmane Idriss réclame également la libération de Robert Gam, le secrétaire général du PSF, qui avait porté la même revendication que lui. Je vous propose de l'écouter, il revient pour nous sur ce dossier.
Le 28, Yaya a été assassiné devant ses enfants et ses femmes, parce que ses femmes aussi étaient au siège. Et Yaya a été avec ses cousins et ses neveux. Certains sont des militants du Parti Socialiste, d'autres non, parce qu'il y avait des mineurs aussi, y compris ses femmes étaient avec lui. Et lorsque Yaya a été assassiné, les militants ont épargné les femmes. Ils ont arrêté tous les jeunes. Ils les ont torturés et ensuite les déportés au niveau de Korotoro. Parmi les prisonniers, parmi les 24, il y a ceux qui souffrent aussi de maladies chroniques. Et je vous assure que beaucoup ne sont pas militants du Parti Socialiste. Ce sont ses neveux et ses cousins qui étaient avec lui. Et personne ne parle de leur libération. Ils ont transformé ce problème de Yaya en problème familial. En fait, tout ce que nous demandons, on ne sait pas de quoi ils ont été arrêtés et pourquoi. Parce que jusqu'à là, ils n'ont pas été présentés devant un juge. Personne ne parle de leur libération. Et le secrétaire général du parti, M. Ngam Robert, on demande aussi sa libération ou bien soit le présenter devant un juge et nous dire pourquoi il a été arrêté et pourquoi ils l'ont enlevé.
L'appel d'Abakar Ousmane Idriss au Tchad. Sa candidature est annoncée depuis plusieurs mois et c'est désormais sa campagne qui est lancée. L'ancien premier ministre kényan Raila Odinga brigue la succession du Tchadien Moussa Faki Mahamat à la tête de la Commission de l'Union africaine. Les États membres voteront lors du sommet prévu en février 2025, ce n'est donc pas pour tout de suite. Mais Raila Odinga a déjà présenté son projet hier devant la presse à Addis Abeba, la capitale éthiopienne où se trouve le siège de l'Union africaine. Clotilde Hazard l'a écouté pour nous.
Dans un discours et des réponses quelque peu digressifs, Raila Odinga a abordé pêle-mêle les thèmes porteurs du programme qu'il appliquera s'il est élu. Priorité au développement économique, au commerce intra-africain et à la lutte contre le réchauffement climatique, avec un accent porté sur les différents projets d'infrastructures de transport continental. Celui qui se présente comme le champion du panafricanisme veut aussi renforcer les standards obligatoires pour les États membres.
Ce qu'il faut faire, c'est établir des normes minimales de base qui doivent être appliquées
pour qu'un pays puisse rester membre de l'Union. Il existe un mécanisme africain d'évaluation par les pairs, mais il faut prendre au sérieux les rapports émanant de l'institution, appliquer ses recommandations et renforcer la démocratie.
Raila Odinga est soutenu dans sa candidature par son opposant politique, le président William Ruto. Avec ce poste à la tête de la commission de l'UA, le quintuple perdant aux élections présidentielles kényanes voudrait finir sa carrière politique avec brio. Encore faudra-t-il convaincre les 54 autres États membres que l'énergie est toujours là, à 80 ans, pour assurer un mandat de 4 ans à ce poste, renouvelable une fois. Dans cette course électorale, M. Odinga a trois rivaux, le Djiboutien Mahamoud Ali Youssouf, le Mauricien Anil Gayan et le Magache Richard Andriamandrato. Clotilde Hazard, Addis Abeba, RFI.
La 27e édition du Salon international du livre d'Alger. Un salon qui attire chaque année de nombreux visiteurs. Le Qatar est l'invité d'honneur cette année. Mais cette édition fait la part belle à l'Afrique subsaharienne avec un espace consacré au débat et au sujet du moment. Faisal Metaoui.
Les débats tournent sur la littérature, l'histoire, le patrimoine et les langues. L'auteur Conan Kouadio est intervenu sur la littérature contemporaine en Côte d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire est un pays qui a connu de grands noms. Les Bernard Dadier, les Amadou Kourouma. Aujourd'hui, la jeune génération essaie de suivre les traces et même d'honorer en faisant mieux. Rafle des prix sur le plan national que sur le plan international.
L'éditeur algérien Karim Shir soutient l'espace Afrique et publie des ouvrages du continent.
On a lancé la collection Résonance, dans laquelle on peut trouver Sami Tchak, dans laquelle on peut trouver Habib Dengour, Atierno Moninambo, Yatane Laboné, Louis-Philippe D'Alembert, Patrice Nganang, le Camerounais, dans laquelle on a intégré quelques auteurs algériens, une manière aussi d'intégrer l'auteur algérien dans son contexte continental.
Média est une grande lectrice de romans africains. Elle ne rate aucun débat à l'espace Afrique.
Aujourd'hui, plus que jamais, cette revendication de notre part africaine, elle est de plus en plus présente. D'ailleurs, l'an dernier, le SILA, l'invité d'honneur, c'était l'Afrique, le continent. C'est intéressant aussi qu'on se rappelle, c'est bien que nous sommes africains. En premier lieu.
Le 27e Salon international du livre d'Alger se poursuit jusqu'au 16 novembre 2024. Faisal Metaoui, Alger, RFI.
Alger, où il est 8h bientôt passé de 42 minutes, on retrouve Julien Coquel-Rohem pour notre matinale.